I'm not that big. Je vous invite à prendre place maintenant. Merci beaucoup pour venir au brunch aujourd'hui encore une fois. Nous sommes ici pour écouter la Bible ensemble et pour découvrir comment vivre pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir Trevor Harris avec nous. Lui est le pasteur de cette église. Comme vous avez vu sur la petite carte pour les brunchs, le thème de ce brunch est « Comment gérer les relations hommes-femmes dans l'église ?» Et Trevor se concentrera sur la question des fréquentations, comment vivre les fréquentations à la gloire de Dieu. Après Trevor aura donné son exposé, il y aura un temps pour les questions. Et il y a des feuilles sur la table et vous pouvez noter vos questions pendant l'exposé ou vous pouvez poser les questions après, pendant le temps pour les questions. Il n'y a pas de petit groupe aujourd'hui, mais vous pouvez rester pour discuter le sujet après si vous voulez. Et pendant le temps de questions, Anne-Sophie vient aussi pour donner un point de vue féminin. Je vais juste prier pour Trevor maintenant. Notre Dieu, merci pour ton serviteur Trevor. Je prie que tu lui aides aujourd'hui à parler clairement et d'expliquer à nous les choses qui sont dans ta parole. Donne-nous les doux cœurs pour écouter ta parole et les mettre en pratique dans nos vies. Pour ta gloire, je prie dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.
Alors, bonjour à chacune. Donc, voilà donc notre sujet. Donc, vous avez sur vos tables des polycopiés avec un peu le plan de ce que nous allons faire ce midi. Je vais commencer en lisant quelques versets des Écritures, donc de l'Épître de Paul à Galates. C'est un exposé plutôt doctrinal ce matin, ou thématique, si je puis dire. Donc, ce texte n'est pas vraiment le texte que nous allons expliquer et aborder, mais ça va nous aider quand même. Donc, c'est Galates chapitre 5 et le verset 13. Je n'ai pas cette version blanche de la Bible, donc si quelqu'un peut donner le numéro de page, ça peut nous aider. 765. Alors, Galates, chapitre 5, verset 13. « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Voilà pour la lecture biblique. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut parler des fréquentations au brunch? Alors, que ce soit clair, moi, je ne suis vraiment pas un expert dans la matière, loin de là. Je ne vais certainement pas donner un témoignage personnel. Et je pense que je peux dire que j'ai dû apprendre, pas mal d'erreurs, en quelque sorte, même par des souffrances, des blessures reçues et données. Mais justement, voilà la pertinence de ce sujet. Ce passage de la vie de célibataire à l'état marié n'est pas simple. Et je pense qu'il est souvent sujet à une source de beaucoup de souffrances et de confusion dans nos églises. Et je pense que c'est bien d'en parler avec toute l'Église. Sachez qu'on va faire aussi, pas un brunch, mais peut-être un barbecue pour les hommes sur ce même sujet à l'automne. Mais je pense que c'est bien d'en parler de manière large, même si vous vous sentez peut-être moins concerné par cette question de manière directe, parce qu'il nous faut créer une culture d'Église, une culture chrétienne, autour de ce sujet, une culture bienfaisante, saine, qui honore le Seigneur. Nous voulons être capables d'être de bonnes conseillères, de bons conseillers. Nous voulons aider chacun à poser de bons fondements dans ce domaine. Et de plus, je pense qu'il faut dire que ce n'est vraiment pas facile de naviguer cette étape de la vie au XXIe siècle. Et surtout dans une culture qui dénigre la sexualité en la transformant en un produit de consommation un peu centré sur l'épanouissement personnel, plutôt que d'affirmer le don de soi ou l'engagement sacrificiel que caractérise le mariage. De plus, je pense que, de manière logistique, si je puis dire, je pense que cette question n'est pas facile dans nos églises évangéliques parce qu'on n'est pas très nombreux. Et je pense que, puisqu'on n'est pas nombreux, ça ajoute à la complexité de la chose. Et finalement, on peut être tenté de mettre un peu d'eau dans notre vin et juste suivre un peu les courants culturels de notre société. Alors, que faire alors? Notre conviction en tant que chrétien, c'est que la parole de Dieu, la Bible, est vraiment suffisante. Nous n'avons pas besoin de rêves, d'intuition, de prophétie, de la psychologie pour savoir comment faire, parce que la Bible, la parole de Dieu, est suffisante. Et ça veut dire qu'elle nous donne tout ce dont nous avons besoin de savoir pour avoir la vie en Jésus-Christ et aussi pour savoir comment mener la vie juste en Jésus-Christ, comment vivre pour lui plaire. Ceci dit, la Bible ne va pas nous donner une recette toute faite pour savoir comment naviguer cette étape de la vie. Nous n'avons pas parlé de code, on ne va pas créer de code ou de loi par lequel on peut devenir ou rester acceptable devant Dieu. Ça serait du légalisme. Grâce au sacrifice de Jésus-Christ, tous ceux qui ont mis la confiance en lui sont déjà acceptables une fois pour toutes. On peut lire dans Romains, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais cette libération de la condamnation nous libère, on est libéré de la condamnation, mais aussi on est libéré de la domination du péché dans nos vies. Et du coup, en fait, le but de notre vie en tant que chrétien, c'est de vivre avec ce nouveau cœur que le Seigneur nous a donné pour lui plaire, pour lui obéir. Ressembler à Jésus-Christ est devenu notre grand but dans la vie. On veut glorifier Dieu. On va parler donc des fréquentations un peu dans ce but-là. Comment être disciple de Jésus-Christ dans ce domaine de nos vies. Et lorsqu'on parle aussi d'être des conseillères, des conseillers des autres dans l'Église, ça c'est le grand but, aider chacun à glorifier Dieu en étant un disciple fidèle de Jésus-Christ dans ce domaine. Alors, que dit la Bible au sujet des fréquentations? Nous sommes à ce troisième point, donc sur le polycopier. Alors, est-ce qu'elle parle des fréquentations? On peut toujours lire les récits de Jacob, Rebecca, de Boaz et Ruth, de Joseph et Marie. Et c'est vrai, ces passages ne sont pas sans pertinence pour cette question. Mais ces passages ne nous fournissent pas un manuel sur comment faire non plus. Force est de constater que notre culture occidentale moderne, où le choix personnel est primordial, où l'encadrement familial est quasiment absent, en fait, notre culture est quasiment aux antipodes des cultures bibliques comme celle d'Abraham ou même comme celle de l'apôtre Paul. En même temps, comme j'ai dit tout à l'heure, la Bible est quand même suffisante pour aujourd'hui. Elle nous parle de manière suffisante pour nous éclairer sur comment faire. Alors, qu'est-ce qu'elle dit donc de manière suffisante? Alors, bien sûr, je ne peux pas tout dire. La Bible est grande. Mais je vais donner juste quelques pistes qui pourraient nous aider dans ce domaine. Et donc, j'ai divisé ça en quatre parties. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, selon la sagesse de Dieu et finalement la mise en pratique dans notre contexte. Donc, on va commencer avec l'amour du prochain. l'amour de Dieu. Et avec ce sous-point, en lui faisant confiance et en l'adorant lui seul. Parce que c'est vrai que Dieu veut que nous lui fassions confiance dans ce domaine. Il connaît nos besoins, il connaît nos cœurs, il connaît les plans qu'il a pour chacun de nous. On voit là le besoin d'une bonne théologie, d'une bonne connaissance de ce Dieu qui est bon, qui est souverain, qui est aimant et qui est près de nous. Pour naviguer ce temps des fréquentations, nous avons besoin d'être bien ancrés dans les Écritures. Et lorsqu'on veut conseiller les gens aussi, ça c'est peut-être la première étape, c'est d'ancrer les gens dans la connaissance de ce Dieu aimant et bon. Et par cette connaissance juste qui il est, appliquée à nos cœurs, Dieu veut nous conduire à être pleinement satisfaits en lui et de lui. Il désire nous apprendre ce contentement et cette confiance. Le mariage est un don de Dieu, mais il ne veut pas que nous en fassions une idole. Il ne veut pas que nous nous disions, même de manière non avouée, « Ma vie sera enfin comblée quand j'ai trouvé l'âme sœur. » C'est tellement facile de penser comme ça. En quelque sorte, cette âme sœur est vraiment l'âme paternelle, si je puis dire. C'est le fait d'être pleinement satisfait en Dieu, notre Père. On voit beaucoup de souffrance dans ce domaine de la vie et le baume le plus puissant est cette connaissance de notre bon Père céleste, de Jésus-Christ lui-même. Cette satisfaction en lui nous aide à naviguer cette étape de la vie et aussi cette connaissance, cette satisfaction en Dieu nous aidera à naviguer aussi le mariage après, de manière saine, d'une manière qui est centrée sur lui. Ensuite, donc après la confiance en lui, l'adoration de Dieu seul, en écoutant sa parole, nous aimons Dieu en écoutant sa parole. Et sa parole, puisque Dieu est bon et puisque Dieu ne ment pas, sa parole est bonne pour nous. Dieu nous guide par cette parole. Nous n'avons pas de chercher des signes ou des clins d'œil ou des portes ouvertes, mais la Bible nous guide de manière sage et suffisante. On peut dire que la Bible, la parole, nous guide de deux manières. Elle nous dit dans un premier temps tout ce qui est de l'ordre du juste, en fait, des questions de justice qu'il faut faire, ce qui relève de l'obéissance. Et ensuite, dans un deuxième temps, elle nous aide à faire des choix sages dans les domaines où on est libre. On va revenir à ce deuxième point lorsqu'on parle de la sagesse de Dieu. Mais en amont, juste en pensant aux fréquentations, la Bible nous dit certaines choses de manière claire. Par exemple, donc, on est libre de se marier. Comme on est libre de rester célibataire, et les deux sont des dons qui sont bons. On voit aussi dans l'Ancien Testament qu'il n'est pas, il faut pas se marier avec un membre de la famille proche, donc ce n'est pas la peine de sortir ou de fréquenter un membre de la famille proche. Il ne faut pas se marier avec quelqu'un du même sexe, Lévitique 18, 1 Corinthiens 6. Il ne faut pas se marier avec quelqu'un qui est déjà marié, c'est l'adultère. Et on est libre d'épouser un chrétien, mais on n'est pas libre d'épouser un non-croyant. Et si quelqu'un remplit ces critères-là, nous sommes libres d'envisager des fréquentations. Sur ce dernier point, si quelqu'un est un chrétien, le fait que la Bible nous enseigne que si le choix dépend de nous, dans certaines cultures, ce n'est pas le cas, mais dans notre culture, c'est quand même le cas, si le choix dépend de nous, nous devons nous marier avec un croyant. Et ça signifie que ça serait de la folie désobéissante, de commencer des fréquentations avec quelqu'un qui n'est pas déjà croyant. Je pense que si on a envie de faire ça, on devrait attendre que cette personne vienne au Seigneur, se fasse baptiser, devienne membre d'Église, avant d'entamer des fréquentations. Je pense que ce baptême, c'est un peu le signe plus objectif de si quelqu'un s'est vraiment donné au Seigneur. C'est l'Église locale qui accorde le baptême, qui enquête un peu sur la crédibilité du témoignage du candidat. Et ensuite, ça enlève un peu le choix très subjectif, personnel de la personne, surtout si vous pensez peut-être fréquenter quelqu'un. Et ça évite beaucoup de souffrance aussi à l'avenir. Alors, troisième point, donc, avec l'amour de Dieu, en poursuivant la sainteté. Un autre domaine, donc, où on veut aimer Dieu, c'est dans la poursuite de la sainteté personnelle. Nous apprenons dans 1 Corinthiens 7 que le mariage et le célibat sont des dons de Dieu. Et Dieu désire que nous vivions les deux en poursuivant la sainteté personnelle. Pourquoi ? Parce qu'on lui appartient. Nos corps et nos âmes lui appartiennent. Et cette sainteté personnelle ne concerne pas que notre sexualité, mais tout notre être, nos paroles, nos pensées, nos gestes. Et cette sainteté personnelle est vraiment l'expression de notre adoration de Dieu, ce Dieu qui nous a sauvés par la grâce seule, en vertu de Jésus seul. Et nous devons apprendre à être intentionnels dans ce domaine des fréquentations pour que cette période difficile de la vie soit vécue à la gloire de Dieu, comme une expression de notre louange envers Dieu. Est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que j'aime Dieu par ma manière de parler à cette fille ou à ce garçon que je fréquente? Ou est-ce que j'adore Dieu par ma manière d'utiliser mon corps ou mon langage ou dans les pensées que j'entretiens? C'est vrai, c'est pas facile. Et on a besoin de l'aide de Dieu, on a besoin de l'aide aussi de l'Église, d'autres chrétiens autour de nous. On va voir ça aussi dans cette troisième partie sur la sagesse divine. Voilà donc l'amour de Dieu comme premier grand principe. Ensuite, après l'amour de Dieu, qui doit déterminer ou définir notre manière de penser, d'agir dans ce domaine, nous avons l'amour de notre prochain, qui doit informer notre manière de penser, notre manière de nous comporter. Et comme peut-être nous avons déjà cerné, c'est très difficile de délier les deux choses. C'est difficile de séparer l'amour de Dieu et l'amour du prochain parce qu'on aime Dieu par notre manière d'aimer notre prochain. Parce que notre prochain est créé en image de Dieu. Alors, dans le cadre de la Nouvelle Alliance, la foi chrétienne, cet amour du prochain est peut-être d'abord de l'amour fraternel. Et ce qui est primordial pour nous en tant que chrétiens dans cette période des fréquentations, c'est vraiment de se considérer comme frères et sœurs en Christ. Celle ou celui que je fréquente est ma sœur ou mon frère en Christ. Il est un frère de Jésus-Christ, elle est une sœur de Jésus-Christ, il ou elle est un enfant de notre bon Père Céleste. Et cette perspective-là peut changer pas mal de choses. À commencer par un désir de protéger l'autre. Et en particulier, peut-être de protéger son âme devant Dieu, sa conscience devant Dieu, par ce qu'on fait. Et aussi le désir de protéger son cœur sur le plan émotionnel. Parce qu'en se fréquentant, je pense que c'est clair, on se rend très vulnérable. Et c'est ainsi, on n'y peut rien. Mais il en découle que l'honnêteté est vraiment vitale, que la communication claire, protectrice, sera vraiment une expression de l'amour fraternel. On n'a pas dit encore, mais bibliquement parlant, je ne pense pas qu'on puisse entretenir l'idée de fréquentations qui n'ont pas pour but clair le mariage. Parce que justement, c'est trop dangereux de jouer un peu dans ce domaine, de jouer avec les affections, les émotions des autres. L'amour de Dieu et l'amour fraternel ne nous permettent pas d'envisager des fréquentations purement récréatives ou vacancières. Ce qui fait que dans nos églises, nous devrions plutôt décourager nos jeunes à un peu expérimenter dans ce domaine, quand le mariage n'est pas encore vraiment quelque chose, où la perspective du mariage n'est pas encore très réaliste. Alors, je pense personnellement qu'il incombe en premier lieu aux hommes d'avoir ce désir de protéger le cœur de la fille qu'ils fréquentent, mais quand même cette sagesse vaut pour les deux. On doit essayer de protéger le cœur de l'autre autant que faire se peut, en étant prudent, en avançant lentement et aussi dans la clarté. On ne veut pas lui donner de faux espoirs en allant très vite ou en s'engageant très tôt. Si on n'est pas sûr où on en est exactement, il vaut mieux ralentir et même prendre du recul. Nos mots, nos promesses et même ce que nous faisons avec nos mains, le contact physique, peuvent affecter l'autre beaucoup plus qu'on ne le pense. Je pense que les hommes ont tendance à banaliser ces choses parce qu'on parle pour plaire sur le moment ou on aime peut-être l'aspect physique juste pour le moment, juste pour le plaisir à l'instant. Mais pour les femmes, ces mots, ces gestes parlent d'engagement. Et dès qu'on parle d'engagement, même si c'est de manière non verbale, on donne libre cours à nos cœurs, à nos espoirs. Et ensuite, quand ça ne marche pas, c'est tellement plus blessant. Peut-être pour les femmes, la tentation est un peu différente, vous pouvez me dire après, mais le contact physique peut devenir inconsciemment un moyen de garder l'homme ou le garçon, un peu de l'encourager ou l'inciter à s'engager. Et ça peut être très néfaste aussi. Il faut beaucoup de prudence dans ce domaine. Il nous faut un respect sain pour la sexualité, qui est un don puissant, et aussi juste une confiance en Dieu, une confiance qui lui dit que voilà, Dieu va nous donner ce don-là en temps utile dans le mariage. Ça passera sans doute par des conversations franches et honnêtes assez tôt dans les fréquentations sur ce qui aide chacun à rester pur, à fuir l'immoralité sexuelle. Il nous faut un amour fraternel qui n'oublie pas que cette fille ou ce garçon sera peut-être la femme, le mari de quelqu'un d'autre à l'avenir, si en fait ces fréquentations n'aboutissent pas au mariage. Et un amour fraternel va s'exprimer aussi dans cette communication claire au début des fréquentations et pendant les fréquentations. En tant que chrétien, bien sûr, on veut mettre la foi chrétienne au centre de ces fréquentations. Mais en même temps, il y a quand même des dangers là aussi. La prière est quelque chose d'intime. Et on peut aller trop vite aussi dans ce domaine-là en voulant prier ensemble. Encore une fois, je pense que la prudence, la communication intentionnelle et le fait d'aller lentement aident chacun à protéger le cœur de l'autre. Voilà donc pour l'amour du prochain. Il y a sans doute beaucoup de choses à dire là-dessus, donc, mais quelques pistes en tout cas. Selon la sagesse de Dieu. Alors là, il s'agit de bien comprendre un peu le plan large de la Bible, de comprendre la sagesse divine dans toutes ses facettes, comprendre ce que Dieu dit par rapport à l'homme, sa nature, par rapport à l'homme et la femme, et comment il a conçu, créé ce monde. Mais on va juste parcourir quelques pistes. D'abord, nous ne sommes pas omniscients. Il n'y a que Dieu qui est omniscient. Il n'y a que Dieu qui sait toute chose. Et ça veut dire qu'en entamant une relation, des fréquentations, on ne sait pas ce que ça va donner. On ne peut pas être sûr que ça va aboutir au mariage. Et quelque part dans ces fréquentations, on doit gérer cette incertitude. Et c'est tout à fait normal et humain. Cette incertitude fait partie de nos limites humaines. D'où le besoin d'aller lentement, de communiquer de manière intentionnelle et d'arrêter les fréquentations si on pense que ce n'est pas prudent de continuer. Et en tant qu'Église, je pense qu'on veut être des lieux, des communautés où cette grâce, cette patience peut s'exercer. On ne doit pas s'attendre à ce que des fréquentations aboutissent chaque fois au mariage. Il doit y avoir de la place pour les fréquentations qui n'aboutissent pas au mariage. Le fait d'arrêter des fréquentations, ce n'est pas synonyme d'échec ou ce n'est pas le synonyme d'un problème. En fait, ça peut être même de la sagesse divine. Ça peut être vraiment de la sagesse qui glorifie Dieu. Alors, deuxième point là, donc, nous sommes à la fois justifiés et pécheurs. Donc, c'est Martin Luther qui a dit ça, le réformateur. Le chrétien est à la fois justifié, déclaré juste devant Dieu, une fois pour toutes, et il demeure pécheur. Le fait qu'on soit encore pécheur et faible nous enseigne à être prudent. Ça nous enseigne aussi à nous méfier de nous-mêmes. Dans ce domaine des fréquentations, on est vulnérable. Nos désirs sont forts, nos émotions, nos espoirs sont forts, sont puissants. Et il nous faut de la puissance de Dieu, de l'aide de Dieu dans nos vies. Et cette aide viendra de notre connaissance, de la conviction que Dieu nous a rendus acceptables une fois pour toutes. Et aussi, cette connaissance, notre justification, va nous aider aussi dans les erreurs. C'est difficile d'être parfait dans ce domaine. Et nous avons besoin de ne jamais oublier la grâce du pardon, de l'amour paternel de Dieu. Ensuite, Dieu, notre Créateur, nous a donné des rôles complémentaires pour notre bien. Donc ça, c'est aussi un principe important. Il nous a donné des rôles complémentaires au sein du mariage. Donc, en quelque sorte, il vaut mieux commencer dans les fréquentations en prenant en compte ces principes. S'ils sont bons pour le mariage, ils sont forcément bons aussi pour cette période des fréquentations. Il y a les passages comme Genèse chapitre 2, Éphésiens 5, 1 Corinthiens 11, 1 Pierre 3 qui nous mettent sur la bonne piste pour explorer ce que ça veut dire en fait ces rôles complémentaires. Comme j'ai dit, on va faire cet exposé pour les hommes au mois de septembre. Et je pense que nous, les hommes, nous avons besoin d'apprendre à prendre l'initiative et à ne pas obliger la femme de mener la relation. C'est pas facile, c'est pas une question d'être le dictateur, mais plutôt une question de se montrer responsable, de prendre ses responsabilités. Dans la période des fréquentations, on n'est pas encore marié, donc cette responsabilité, elle est théorique et aussi ou en fait, en tout cas, ce qui est sûr que c'est pas encore le cas, c'est la soumission de la femme dans le mariage n'est pas encore le cas dans les fréquentations. Et je pense que ça, c'est un point important à dire. Éphésiens 5 parle du modèle de Jésus qui a cherché l'intérêt de sa fiancée ou sa promise. Jésus s'est sacrifié pour elle, il a pris l'initiative. Pierre 1, Pierre 3 nous parle de la nature plus faible de la gente féminine. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais encore une fois, ça nous aide en tant qu'hommes à dire « Ah, c'est quand même à nous de prendre nos responsabilités et de protéger la femme, même des chagrins d'amour pendant cette période des fréquentations. » Et pour les femmes, je pense que c'est une question d'encourager doucement les hommes à prendre leurs responsabilités. Parce qu'on est, même si ça devrait être à nous de faire ça en premier lieu, on a bien du mal à le faire. On est bien faible dans ce domaine. On a du mal. On a grandi aussi dans une société qui ne met pas ça en valeur. Donc, essayez de ne pas l'usurper dans ce rôle, mais de l'encourager de manière douce, de manière intelligente, mais sans s'effacer. Et posez-vous bien la question, est-ce un homme sage à qui je pourrais envisager de me soumettre? Oui, il y a peut-être l'attirance physique, il y a peut-être l'amour, il y a peut-être aussi la peur de rester seul, mais je pense qu'il faut voir très lucidement et se poser la question, est-ce que dans le mariage, je serais capable de me soumettre à la direction, aux soins spirituels de cet homme? Est-ce que je peux vraiment envisager de cheminer avec lui jusqu'à la fin de ma vie? Est-ce qu'il est un homme qui va essayer de mettre en pratique Éphésiens 5? Est-ce qu'il sera capable de mener la vie spirituelle de la famille? En tout cas, voilà donc ces principes des rôles complémentaires. Et Dieu en Christ nous a donné une famille pour nous épauler. Donc une autre piste de sagesse pour cette période difficile, concerne les personnes qui nous entourent. Dieu nous a donné une communauté. Dans les fréquentations, on peut avoir tendance à nous isoler, à dire voilà, c'est nous seuls, on va voir ça ensemble, on est maintenant en couple. Mais en faisant ça, on se coupe des conseils et des conseillers, conseillères que Dieu nous donne, que Dieu a mis à nos côtés. Et peut-être premièrement à nos familles biologiques et aussi à la famille de l'Église. Je pense que c'est important avant et pendant d'en parler avec des amis chrétiens, peut-être des femmes plus âgées à l'Église, peut-être de prier ensemble, peut-être ça serait sage de demander à quelqu'un de vous accompagner pendant cette période, de vous poser des questions de temps en temps pour savoir comment vous allez. Parlez-en aussi avec vos parents, c'est eux qui vous connaissent le mieux. Vous pouvez également en parler avec des responsables chrétiens. En tout cas, pour la famille biologique, c'est nos parents qui nous connaissent le plus, c'est eux qui ont à cœur qu'on choisisse de bons partenaires dans le mariage. Et je pense que c'est respectueux, c'est dans l'ordre des choses de les impliquer là-dedans. Peut-être pas forcément tout de suite, mais c'est juste sage de penser à ça. Pour les hommes, c'est sans doute sage d'en parler avec les parents de la fille en question, ou à défaut peut-être avec le pasteur, les responsables de l'église de la fille. C'est une démarche saine qui va sans doute rassurer les parents et même peut-être la fille en question. Et je pense de manière globale, c'est très sage de bien faire la connaissance des familles réciproques. On commence à vraiment connaître quelqu'un en connaissant aussi, en faisant la connaissance de sa famille. On commence à voir les choses sans tomber un peu dans la psychologie quand même. En tout cas, c'est un domaine difficile, en fait, ces fréquentations. Et nous avons besoin de l'aide de la communauté, que ce soit la communauté de la famille biologique ou la famille de l'Église. Et c'est prudent d'avancer ensemble avec d'autres. Et aussi, la Bible nous aide à faire des choix sages, on l'a dit pour la première partie. La Bible nous donne des choses qui concernent ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et là, c'est une question d'obéissance, mais aussi... La Bible, dans ce domaine de la liberté, nous donne des pistes pour la sagesse, des critères à prendre en compte. Est-ce un chrétien qui prend sa foi et sa vie d'église au sérieux? Est-ce qu'il va régulièrement à l'église? Ou est-ce qu'il va que de temps en temps? Est-ce un chrétien qui prend la sainteté au sérieux? Est-ce qu'il lutte avec le péché ou est-ce que finalement ça lui est un peu égal? Est-ce un chrétien qui veut servir Dieu, qui veut servir son peuple, qui met en pratique les dons que Dieu lui a donnés? Est-ce qu'on peut cerner en lui, et en fait, je pense que c'est bien aussi de se poser ces questions pour soi-même aussi, de ne pas que focaliser sur l'autre, mais quand même, donc, est-ce qu'on peut cerner de l'humilité, des fruits de l'esprit, de l'honnêteté, de la fiabilité, un bon rapport à l'autorité? C'est la preuve que Dieu est à l'œuvre dans sa vie. Et la vie de couple, la vie, le mariage, on dit souvent que c'est une vie de sanctification, où on apprend à être sanctifié devant Dieu. Mais si on est allé, si on va tous les deux dans le même sens, vers la sanctification, c'est nettement plus facile. Mais si on a un qui se fiche un peu de ça, ça sera d'autant plus difficile. Est-ce un homme qui... veut aimer de manière sacrificielle, donc un peu selon ce passage Éphésiens 5. Bien sûr, on voit dans l'Ancien Testament la sagesse de, est-ce qu'il y a une attraction physique? Est-ce qu'il y a une amitié grandissante? Tout ça relève de la sagesse. Ça, c'est pas vraiment sage d'aller de l'avant si c'est pas le cas. Voilà, donc pour ces trois grands axes, pour ce qui est de ce que la Bible dit. Donc ensuite, la mise en pratique dans notre contexte. Et dans un sens, moi je ne vais pas tout dire parce que le but c'est vraiment de mettre en pratique ce que la Bible dit. Et ça va dépendre un peu de nos cultures, de nos façons de faire. Mais en même temps, je pense qu'on a besoin, dans notre contexte au XXIe siècle, dans notre contexte en France, dans le contexte de nos églises évangéliques, on a besoin quand même d'avoir quelques pistes pour une culture commune, quelqu'un qui vient au Seigneur pour la première fois, qui arrive dans une église évangélique, qui se dit, je sais comment faire en dehors de l'église dans ce domaine. Mais vous faites comment exactement? C'est comment une vie de disciple dans ce domaine? Donc on a besoin de quelques pistes. Donc moi j'ai divisé un peu en quatre étapes. C'est un choix personnel, c'est pas une loi. Se voir, se fréquenter, se fiancer, se marier. Et moi je vais juste commenter un peu les deux premières étapes. Bien sûr, de manière pratique, il s'agit d'abord de prier, de faire confiance à Dieu, de donner ça au Seigneur dans la prière, et même d'en parler ensemble, de prier ensemble, d'être ouvert et honnête dans ce domaine. Et bien sûr, la satisfaction en Dieu. Si c'est une idole dans nos cœurs, il vaut mieux traiter cette idole en amont, parce que sinon cette idole va faire du mal aussi dans le mariage. Alors, se voir, dans un premier temps, je pense qu'il s'agit simplement de saisir les occasions de parler, de voir les personnes à l'église, de faire la connaissance des personnes en groupe, de passer du temps avec l'homme, la femme en question, donc en groupe, de sortir ensemble. On peut même créer des occasions de faire ça. Ça peut s'organiser, ça peut être peut-être un peu artificiel par moment, où les gens peuvent dire « Ah tiens, il y a peut-être une idée derrière sa tête », mais en fait, ça évite de la casse, et parfois, on peut même juste voir si ça va marcher ou ça vaut la peine d'aller plus loin, juste comme ça. Donc, en tout cas, c'est bien de juste passer du temps avec d'autres ensemble. Ensuite, je pense qu'en tant qu'Église, c'est important pour nous d'encourager les hommes, et c'est ce qu'on va faire aussi au mois de septembre, les hommes qui souhaitent se marier, de prendre l'initiative. Dieu nous a créés ainsi, Jésus, l'époux, le fiancé de l'Église, a pris l'initiative, mais ça ne veut pas dire que les femmes ne font rien, bien sûr. Je pense que c'est assez rare qu'un homme se lance sans avoir quelques idées de si la fille l'apprécie bien ou non, et je pense qu'il y a toute une communication subtile là, que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pense que c'est normal, ça fait partie de la vie. Alors, ensuite, pour cette première étape, donc se voir, moi, ce que je proposerais, c'est que, juste que c'est bien au début de proposer, et peut-être là, je vais, dans un sens, je parle d'abord aux hommes, mais d'avoir un temps où on fait simplement meilleure connaissance. Juste le fait de dire, tiens, d'accord, j'aimerais mieux faire connaissance, se voir deux, trois fois, aller prendre un café, se balader ensemble. Je pense que si un homme vous demande de faire ça comme ça, donc, mais ça ne vous intéresse pas, je pense au contexte de l'Église. Moi, je pense que c'est bien de l'honorer, d'honorer son initiative. Je pense qu'il a pris un risque, il s'est montré vulnérable. Et je pense qu'en tant que femme, donc, quelque part, vous pouvez lui faire du bien en le respectant. Dans ce sens, il a fait preuve de maturité. Donc c'est bien de ne pas l'éviter à l'église ou d'en parler avec d'autres. Parce que je pense que pour l'amour fraternel, c'est une question de protéger sa réputation. Et on vit dans les églises assez petites et les choses se sachent. Sinon, les choses se bloquent. Et ensuite, les gens sont frustrés, ils ne savent pas quoi faire. Parce que si j'ose lui demander d'aller prendre un café, tout le monde va le savoir. C'est gênant. Et ensuite, on se dit, c'est peut-être mieux, plus facile d'aller chercher ailleurs en dehors de l'église. En tout cas, honorer un peu son initiative. Mais si vous aviez envie de dire oui, je pense que dans un premier temps, c'est bien savoir que non, il ne s'agit pas d'un engagement. Bien sûr, ça veut dire qu'il faut bien communiquer au début pour que ce soit clair que ce n'est pas un engagement. C'est juste une question d'aller prendre un café ou d'aller se balader. Non, on ne se fréquente pas. Ce n'est pas encore le cas. C'est juste une question de faire meilleure connaissance. De parler de différentes choses, de la foi, des plans, du futur, des centres d'intérêt. Et je pense que c'est sage de garder un peu sa langue, éviter de donner des promesses ou d'aller trop rapidement, donner des engagements quelconques. une maîtrise de soi qui dit voilà, c'est juste ça, je ne vais pas chercher de l'intimité. Et aussi, ça nous permet de ne pas trop espérer. C'est une manière de protéger le cœur de l'autre pour que les espoirs ne vont pas trop loin, trop rapidement. Peut-être si l'homme a du mal à définir les choses, c'est bien de l'aider à les définir. Parce que je pense que vous avez besoin de la clarté au début. Je pense qu'on peut souvent aussi savoir assez rapidement, après 2-3 sorties, si ça vaut la peine d'aller de l'avant ou si c'est mieux d'arrêter. Moi, j'encouragerais les hommes de prendre l'initiative pour faire peut-être un petit bilan après 2-3 fois, mais rien ne vous empêche de faire ça non plus ou de l'aider à faire ce bilan, disons, je ne sais pas, ou en l'aidant à juste faire ce petit point sur si ça vaut la peine de continuer ou s'il vaut mieux faire une pause et réfléchir à chacun de son côté. Et si les choses ne vont pas vraiment dans le bon sens ou si l'un de vous sait déjà, non, je ne pense pas que ça va marcher, c'est vraiment pas la peine de forcer les choses. Je pense que souvent, c'est mieux de s'arrêter donc à ce moment-là. Dans le doute, il vaut mieux s'abstenir. Et vraiment dans l'idée de protéger le cœur de l'autre. Si vous n'avez pas de sentiments ou d'intérêt grandissant l'un pour l'autre, bah, il vaut mieux être honnête et ne laissez pas traîner les choses. Je pense que j'ai vu pas mal de dégâts comme ça, où les gens essayent de forcer en disant que oui, je pense que les sentiments vont venir peut-être à l'avenir ou quand même on s'entend bien. Mais après, il y en a un qui a quand même des doutes et ensuite, après ça fait des dégâts. Et c'est pas facile d'avoir ces dégâts aussi dans l'église locale, c'est pas facile d'avoir ces dégâts et parfois il y a même quelqu'un qui quitte l'église à cause de ça. Donc c'est aussi une question de culture, une culture sage dans nos églises. En tout cas, c'est une question une manière pratique d'aimer notre frère ou notre sœur. Et encore une fois, c'est pas un échec. C'est si on a été fraternel, si on a traité l'autre avec du respect, comme une sœur, comme un frère en Christ, c'est quelque chose d'honorable. Il y a pas de raison d'avoir honte. Et pendant tout ce processus, comme j'ai dit, c'est bien d'en parler avec d'autres, avec vos amis, avec votre famille, avec des sœurs plus âgées à l'église. Ne vous coupez pas des conseils des autres. Ils vous connaissent, ils veulent votre bien. Et si vous pensez que vous voulez continuer de manière un peu plus dans la durée, à poursuivre ces fréquentations de manière plus formelle, faites de cette idée donc un sujet de prière. Ne passez pas tout de suite à ça, mais parlez-en avec d'autres qui vous connaissent bien. Je pense que ça peut être tentant, surtout pour les garçons, d'aller très rapidement. Je pense que c'est un peu dans notre nature de vouloir conquérir un peu le cœur de la fille, de vouloir un peu gagner le cœur de la fille. Et parfois, ça nous pousse à faire des bêtises ou à nous engager trop rapidement. Il vaut mieux user de patience et peut-être aussi, en tant que femme, d'aider le garçon, l'homme, à ralentir, à attendre un peu. Donc, c'est la voie de la sagesse. J'ai mis quelque part donc, une citation des proverbes quelque part. Donc en fait, c'est sur la première page. Le manque de connaissances n'est bon pour personne et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Il y avait un proverbe anglais qui est un peu comme ça, qui parle de ceux qui, j'oublie exactement comment c'est, mais celui qui fait des décisions hâtives se repent ou regrette dans la durée. Après, en tout cas, c'est bien d'aller lentement. Surtout parce que ces moments sont chargés d'émotions et on a parfois peur. Il y a aussi parfois cette peur d'être seul aussi. En tout cas, donc, deuxième point, donc, les fréquentations. Je pense que c'est bien de se dire que ce n'est pas encore les fiançailles. Encore une fois, ce n'est pas une question de brûler des étapes. C'est aussi un temps pour faire mes connaissances avant le mariage, mais en vue du mariage. Je pense que, quelque part, C'est là où ça se focalise un peu plus sur cette perspective du mariage. Ce n'est pas sain de se fréquenter juste pour s'amuser, mais on se fréquente vraiment en vue du mariage. Et sinon, si on a des doutes là-dessus, ce n'est pas la peine de faire durer ces moments. Il vaut mieux libérer l'autre pour que l'autre puisse trouver quelqu'un d'autre. Il faut le voir comme ça. Encore une fois, la communication honnête et claire est de rigueur. Je pense que c'est le moment d'impliquer progressivement vos amis réciproques dans l'amitié, dans la relation, et des familles réciproques aussi, de connaître aussi l'église de l'autre si vous ne fréquentez pas l'autre église. Mais ce n'est pas la peine de quitter votre église pour aller dans l'église de l'autre ou inversement. C'est justement à ces moments-là qu'on a besoin de notre église, de nos frères et sœurs. Et ça, c'est plutôt l'étape une fois qu'on est marié. Et la place du toucher physique doit être bien déterminée et limitée. Non pas pour être ringard ou frigide, mais juste toujours dans l'intérêt de protéger le cœur de l'autre, par amour pour Dieu et pour amour pour notre prochain. Et encore une fois, je pense qu'on a besoin de communication intentionnelle dans ce domaine. Parce que si on ne communique pas, si on n'a pas une conversation à un moment donné dans les fréquentations, on va avoir peur que l'autre pense qu'on ne l'aime pas ou qu'on n'est pas assez attiré par lui ou par elle. Et si cette communication n'est pas claire, on va finir par faire des choses qu'on va peut-être regretter après. Pourquoi pas, dans ce moment, pendant ces fréquentations, acheter un bon livre chrétien au sujet du mariage, pour en parler. Parfois, on laisse ça pour le moment des fiançailles et pour la préparation au mariage avec les responsables d'église. Mais quelque part, on a besoin déjà d'aborder ces sujets, justement pour voir si c'est sage de passer à l'étape des fiançailles. Et encore une fois, je pense que c'est bien de ne pas aller trop vite et de s'arrêter, en fait. Si l'un de vous pense que il ou elle n'est pas sûr, c'est pas un échec. Cette période des fréquentations est là pour explorer la possibilité du mariage. Mais l'engagement du mariage n'est pas encore là. Et parfois, il faut conclure que non, c'est pas sage de continuer. Et c'est mieux de prendre du recul pour un moment, peut-être, et même de rompre. En même temps, même si chaque situation est différente, je pense qu'il me semble que c'est important de dire que c'est peut-être pas bien de se fréquenter pendant des années. Il vaut mieux être clair et aller de l'avant par amour de l'autre, parce que si ça ne va pas aboutir, pourquoi avoir passé autant d'années ensemble si l'autre a besoin d'être libéré pour rencontrer quelqu'un d'autre. En tout cas, je vais m'arrêter là. Quelques pistes, sans doute pas le dernier mot sur la question. J'ai mis en bas de page donc deux livres que j'ai lus qui sont bien, je trouve. Celui de Joshua Harris. Je pense que c'est un livre, en fait ce sont tous les deux des livres américains, mais on sent vraiment la culture américaine dans ce livre. Et sans doute il est plus adapté à ceux qui sont plus jeunes. Et ensuite, l'autre livre de Phillips, en fait, si je devais en choisir un, je choisirais celui-là. Et ça parle beaucoup plus de cette idée de protéger le cœur de l'autre. Voilà. Je pense que Anne-Sophie va venir m'aider avec des questions. Donc, vous avez sans doute peut-être quelques questions, je ne sais pas. J'ai pris pas mal de temps, je m'excuse. Je vais
juste préciser pour un petit bout de papier, si vous voulez écrire des questions, ou alors vous pouvez aussi lever la main directement. Et c'est Anne qui va passer pour ramasser les petits papiers au fur et à mesure, mais voilà, je ne sais pas s'il y a déjà des questions.
Merci. on est entre nous. Une bonne occasion de... Même, je pense, très voir, voilà, s'il y a... Enfin, j'imagine s'il y a des choses que vous avez entendues, que vous ne comprenez pas, ou avec lesquelles, enfin, vous n'êtes pas d'accord, entre guillemets, pour savoir quelles sont... Pourquoi est-ce que Trevor a dit telle ou telle chose ? Je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter.
Je pense qu'il y a aussi des domaines que je n'ai pas abordés, qui sont très pertinents. Je n'ai pas vraiment abordé la question de comment rencontrer quelqu'un. de nos jours, c'est... Il y a aussi la question de l'Internet, des questions autour de ça. Des choses comme ça qui ne sont pas évidentes. Et puis...
J'ai peut-être une idée, mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que peut-être on se donne 5 minutes, celles qui veulent manger un peu mangent, celles qui veulent écrire des questions prennent le temps de le faire, sans la pression du silence.
En fait, ce qu'on peut faire, c'est juste ramasser les questions,
voilà,
de manière anonyme aussi.
Voilà, exactement. Ouais. Donc, 5 minutes un petit peu, si vous voulez réfléchir aux questions que vous avez, et puis on revient, on ramasse...